La première, podcast.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La première.
Caroline Veit, on va revenir donc avec vous sur la page la plus noire de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, Laurent, on va revenir ensemble sur l'histoire du génocide le plus atroce qui ait été perpétré. Un génocide démesuré, savamment conçu, préparé, exécuté. Il a profondément marqué l'histoire du XXe siècle et l'histoire tout court d'ailleurs. La Shoah fait partie de notre histoire, de notre mémoire collective. Ce sont 2/3 des Juifs d'Europe qui ont été assassinés dans le silence le plus complet du monde. Pour reprendre une expression très éloquente utilisée dans le documentaire dont on parle aujourd'hui. Ce documentaire, c'est jusqu'au dernier, La destruction des Juifs d'Europe. C'est un film en 8 parties dont vous pourrez voir les 3 premières demain soir sur la Une dans Retour aux sources. S'il sort maintenant, c'est parce que, comme on évoqué il y a quelques minutes, l'année 45 marque la libération des camps et la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était il y a précisément 70 ans. Et la volonté de ceux qui ont conçu ce projet n'est pas tant d'expliquer le pourquoi du génocide, mais le comment. Comment a-t-il été possible qu'un plan machiavélique imaginé par quelques-uns ait pu se concrétiser? C'est forcément que chacun a été complice à son échelle, volontairement ou non. Alors moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'un des producteurs de ce documentaire, Paul Rosenberg. Il sortait d'une vision de presse et je lui ai demandé comment les journalistes avaient réagi à la diffusion du premier épisode de la série qui dresse un état des lieux de la vie juive au début des années 30 avec la montée progressive du national-socialisme. On l'écoute.
Les journalistes qui étaient là ce matin, il y a eu un silence après la projection qui a duré 1 heure, puis des questions. Mais je sentais, quelle que soit leur sensibilité, leur âge, leur histoire, il y avait un moment comme ça de silence, de gêne, comme s'ils posaient des questions sur quelque chose qui est longtemps relevé de l'indicible, de l'inénarrable, du incompréhensible, du pourquoi, du comment, était gênant, voire trivial. J'ai senti ce petit moment comme ça, un peu. Puis une journaliste s'est jetée à l'eau, m'a posé des questions, et m'a demandé comment, pourquoi nous avons produit ce documentaire. Pourquoi Salinus, Paul Rosenberg, pourquoi William Carell et Blanche Finger, pardon de citer tous les noms. Et puis donc j'ai dû réfléchir, enfin je me suis souvenu pourquoi j'ai, il y a 4 ans, tout simplement j'ai voulu faire avec France Télévisions, France 2, Fabrice Puchot, lancer ce projet qui finit aujourd'hui en termes de production et de réalisation. Pour reprendre votre question, revenir à votre question, il y a eu un moment de gêne. Qu'est-ce que nos familles, qu'est-ce que nous avons fait à ce moment-là pour laisser faire une telle horreur? Mais c'est un débat. Je me suis souvent posé la question que pendant Srebrenica, ça se trouve, j'étais en train de prendre un café boulevard Saint-Germain au Flore, pendant que Srebrenica brûlait. Et que peut-être que pendant le Rwanda, rien n'est comparable. Tout est différent, tout est singulier. Donc, il ne faut pas qu'on se pose ce genre de questions. Enfin, si, on peut se les poser. Mais la réponse n'a pas de sens. L'histoire ne se résume pas à la somme des petites histoires. On peut se poser la question, que faisaient les dirigeants que nous avions choisis, élus, nommés, désignés à cette période-là de l'histoire pour qu'une telle horreur se produise? Ça oui, on peut se poser ce genre de questions. Mais on ne doit pas avoir de silence coupable, on est coupable de rien aujourd'hui.
Non,
faut pas déconner.
De rien, mais ça reste des images extrêmement difficiles à voir et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de se poser la question
Bien
de savoir
sûr.
Qu'est-ce qu'on aurait fait dans les mêmes circonstances. Alors, vous
mais
évoquiez
surtout qu'il y a pas d'images. Il y a très peu d'images. C'était le paradoxe, c'est le paradoxe du film. Ce film, en 8 volets, il y a beaucoup d'images d'archives, énormément, mais dans ce premier épisode, il y a peu d'images d'archives. Posons très simple, c'est que on n'allait pas les inventer, elles n'existent pas. Il y a des images de fiction, on n'allait pas utiliser des images de fiction. Pour un documentaire, ça aurait été un peu trivial, il ne faut pas être faussaire. Là, c'était des historiens français, américains, anglais, israéliens, allemands, polonais, suisses, qui interviennent, qui se parlent, qui se répondent, et leur propos fait histoire. La somme de leurs propos raconte l'histoire. Ils racontent l'histoire en faisant l'histoire, ou ils font l'histoire en racontant des histoires. Mmh. Dans les deux sens. Et ça nous laisse un peu pantois.
C'est extrêmement cohérent et on a l'impression qu'ils se répondent les uns les autres.
Absolument.
Complètement. Alors, vous évoquiez le fait qu'il y a des journalistes qui voulaient savoir le pourquoi. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Alors, pourquoi ce film aujourd'hui? On sait que c'est une date anniversaire quelque part. Mais est-ce que vous aviez surtout l'impression qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites encore ou qui n'avaient pas été abordées sous un certain angle? Parce que c'est vrai que la Shoah, on en a beaucoup parlé. Mais il y a peut-être des choses qui n'avaient pas été dites.
Bien sûr. Il y a 4 ans... est sorti en France le film La Rafle. Et à cette occasion, un quotidien du matin, un gratuit du matin, pour ne pas le citer, publie un sondage. Plus de 60% de Parisiens, de Français, mais Parisiens, entre 15 et 35 ans, n'étaient pas au courant de l'arabe du Vel'Hiv. Et une grande majorité de Parisiens de plus de 65 ans n'étaient pas au courant non plus. La conjonction des deux raconte que, un, les jeunes ne savent pas ou ne veulent pas savoir. Deuxièmement, les personnes plus âgées, les seniors, comme on dit très poliment et politiquement correctement, bien, ils étaient dans le déni. On ne peut pas ne pas savoir à Paris, c'est impossible. Sachez que sur toutes les écoles primaires, secondaires, dans tout Paris, il y a des plaques apposées depuis une quinzaine d'années, peut-être un peu plus même, qui racontent, d'une façon explicite, au-dessus de l'entrée de l'école. Ça veut dire que, qu'on ait ou pas des enfants de bas âge ou plus âgés, qu'on soit voisin, qu'on soit passant, on les voit, elles racontent que, dans cette école, des enfants juifs ont été pris, envoyés à Drancy ou envoyés en camp et ne sont pas revenus.
Encore faut-il les lire.
Encore faut-il les lire, oui. Encore faut-il voir ce qui se passe autour de nous. Encore faut-il s'intéresser à l'autre. Vous avez raison, c'est la question. Quand on a vu ce sondage avec Fabrice Puchaud, directeur des documentaires de France 2, avec mes collègues Céline Nuss, William Carrel, réalisateur, Blanche Finger, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors quoi ? Je crois qu'à un moment donné, il faut marquer les esprits. Je veux dire, on n'allait pas faire un film, un de plus. Il y en a eu beaucoup de faits. On avait envie de faire une espèce de somme, d'entité lourde, énorme. Combien d'heures ? On ne savait pas. On s'est dit 8 heures. Ça aurait pu être 10 peut-être. Mais 8 heures. 8 heures qui racontaient comment, au début, des gens qui étaient vivants, disséminés dans toute l'Europe, intégrés ou pas, assimilés ou pas, religieux ou laïcs, croyants ou pas, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, de toute origine, comment il y a eu une entreprise progressive, industrielle, pour les éliminer. Comment, en 6 ans, autorisez-moi un parallèle, une civilisation, on a tous appris ça en histoire quand on était plus jeune, les Étrusques ont disparu au bout de quelques centaines d'années. La civilisation grecque s'est noyée sous les coups de boutoir des Romains qui eux-mêmes, sous les coups de boutoir, des Visigoths, des Ostrogoths, et j'en passe. Mais il a fallu du temps. Là, comment, en 6 ans, on a voulu détruire une civilisation à l'échelle d'un continent? On avait envie de raconter ça.
Nous, les survivants, ne sommes pas les vrais témoins. Nous sommes ceux qui, grâce à l'habileté ou la chance, n'ont pas touché le fond. Ceux qui l'ont fait ne sont pas revenus pour raconter ou sont revenus muets. La destruction menée à son terme, personne ne l'a raconté, comme personne n'est jamais revenu pour raconter sa propre mort. Nous, nous parlons à leur place, par délégation.
Extrait de l'ouvrage « Les naufragés et les rescapés » de l'écrivain italien Primo Levi, l'un des plus célèbres, si on peut dire, survivants de la Shoah, Caroline.
Oui, Laurent, un extrait qui figure donc dans la première partie du documentaire jusqu'au dernier, « La destruction des Juifs d'Europe », à voir donc demain soir sur la une dans « Retour aux sources ». Ce documentaire, on l'évoquait, se compose de 8 parties. Il a été réalisé par William Carrel et Blanche Finger, produit par Céline Nuss et Paul Rosenberg, que nous avons rencontrés. Alors, il faut savoir qu'en matière d'historiographie du génocide, il y a un ouvrage de référence qu'on doit à Raoul Hilberg, un historien et politologue juif américain né en Autriche. Raoul Hilberg a analysé froidement pendant 25 ans tous les mécanismes mis en œuvre dans le génocide des Juifs. Cet ouvrage s'intitule « La destruction des Juifs d'Europe ». On sent que le documentaire qu'on évoque aujourd'hui s'inscrit dans la même lignée puisqu'il en reprend le titre. Moi, j'ai voulu savoir ce que les producteurs et réalisateurs espéraient pouvoir apporter de plus que ce qui se trouve dans cet ouvrage, écrit en 1961, mais révisé par l'auteur en 1985.
Vous avez raison de le souligner, puisque c'est sorti en France et en Europe occidentale que dans les années 80.
Oui.
J'en profite pour dire que Hannah Arendt avait fait en sorte que de boycotter un peu le livre à ça, quand il a voulu le publier. La concurrence entre universitaires est terrible. C'est un autre débat. Hilberg, en fait, un certain nombre de cinéastes, de réalisateurs, d'historiens ont raconté le pourquoi. Je fais référence à Shoah de Lanzmann. Pourquoi ? Nous, notre propos, c'était de travailler sur le comment. Comment c'était possible ? Comment s'est mis en branle une machine ? Comment le national-socialisme venant au pouvoir ? Comment Mein Kampf ? Comment Hitler ? Comment les nazis ont mis en place cette machine infernale ?
Oui.
Comment s'est installée la solution finale ? Comment tout ça, ça s'est construit ? Ce n'était pas des décrets. Comment il y a eu l'assentiment, le consensus d'une population ? Comment il y a eu le silence ou pas des voisins ? Comment tout ça s'est élaboré ? Ce comment, Hilberg nous a inspirés, mais il ne s'agit pas d'adapter le livre d'Hilberg, c'était impossible. C'était un livre scientifique, technique, qui nous donnait une espèce de doxa sur « il faut démonter les mécanismes d'un processus criminel pour, un, l'analyser, deux, le raconter, trois, ne serait-ce que pour qu'il ne se reproduise pas ou ne se reproduise plus ». Notre souci a été de traiter près d'un siècle d'histoire, finalement, depuis les années 30. Nous ne sommes pas arrêtés en 45, nous avons continué. Nous avons continué avec les procès de Nuremberg, nous avons continué avec le procès d'Eichmann, nous avons continué avec ce que ça veut dire aujourd'hui, le travail sur la mémoire, le travail, la muséographie, comment ces événements sont perçus en Occident et dans le monde, comment ils sont analysés, comment ils sont reçus ou pas.
Mais qu'est-ce qui vous laissait croire qu'il y aurait plus d'infos qu'en 85, par exemple ?
En 85, il restait des témoins. Je veux dire que 85, c'est un peu une date charnière. Lanzmann sort son film Shoah au début des années 80. N'oubliez pas qu'il a tourné dans les années 70. Mmh. Il a mis du temps à le monter. Ce n'est pas juste anecdotique. D'abord, c'est terrible à monter. Deuxièmement, le témoin était encore vivant. En 2014-2015, il n'y a plus de témoins, très peu de témoins. Il n'y a plus de survivants. Ils sont très âgés. C'est plus un travail sur la mémoire des gens, c'est un travail scientifique qui doit être implacable dans une période où beaucoup de choses sont remises en cause, ont tendance quelquefois à se reproduire, en tout cas à bégayer, voire à se répéter, et que là, nos témoins doivent être implacables, ce sont les historiens du monde entier. Il y a eu 50 historiens dans le film, du monde entier, qui chacun dans sa spécialité, dans son domaine de prédilection, sachant que c'est parmi, il n'y a pas que les plus grands parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas été dans le film, mais parmi les plus grands du monde, Kershaw, Friedlander, Cesarini, Browning, Annette Wiewiórka, Chapoutot, Ingrao, et j'en passe, plus quelques écrivains, David Grossman, Amos Oz, dont le travail a fait, dont l'œuvre littéraire a fait histoire. Eh bien, on les a pris aussi. Voilà.
Oui, vous les avez rencontrés, vous êtes allé dans des lieux aussi symboliques, c'était important ça, de retourner dans des camps, par exemple, là où ont eu lieu les exterminations.
Oui, parce qu'on a une culture de l'incarnation en termes d'image. Une image doit raconter quelque chose, ou un propos, ou en tout cas, si ce n'est pas une archive, elle doit quelque part nous amener à réfléchir, à nous montrer le lieu qu'on évoque, le lieu aujourd'hui. Je pense que les lieux, d'abord, ont une mémoire, même aujourd'hui. Et tous les lieux n'ont pas été conservés en l'état, mais les regarder, les filmer, nous les montrer, nous convoquent leur histoire.
Oui.
C'est ce que nous avons fait pour les camps, pour certains lieux de mémoire, en Pologne, en Allemagne, en Russie, là où a eu lieu, enfin, dans le cœur du chaudron, quoi, voilà.
Quand Hitler écrit « Mein Kampf », mon combat, son combat, c'est contre le juif. Ah, les juifs. Les juifs, c'est des individus. Le juif, c'est une idée. J'ai utilisé le terme antisémitisme rédempteur. Pour sauver le monde, les juifs devaient disparaître.
C'était Sol Friedlander, ici historien israélien, qui a participé à ce documentaire jusqu'au dernier, La destruction des juifs d'Europe, Caroline.
Oui, il y a de nombreux autres historiens, on l'évoquait tout à l'heure avec Paul Rosenberg, qui ont participé à ce documentaire. Et vous le verrez si vous le regardez demain soir sur la Une dans Retour aux sources. Les interviews de ces spécialistes ont été montées de telle façon qu'ils se répondent, se complètent, alors qu'ils sont chacun seuls face à la caméra. Je vous laisse découvrir ça. Nous, dans l'immédiat, on va revenir quelques minutes encore à l'après-guerre avec Paul Rosenberg. Il y a un élément marquant dans les années d'après-guerre, c'est le silence. Le silence de ceux qui sont revenus des camps et celui de ceux qui n'y sont pas allés et qui n'ont pas posé de questions. Il a fallu attendre les années 70 pour que les langues se délient. Et j'ai demandé à notre invité comment est-ce qu'on expliquait ça.
Le silence de l'après-guerre de 45, et il y a plusieurs explications. Historiens, psychanalystes ont donné des explications qui me semblent totalement crédibles et cohérentes. D'abord, quand on est victime, on ne raconte pas. On a honte de ce qui nous est arrivé. D'abord, n'oubliez pas que ceux qui sont rentrés sont des survivants. Les survivants avec le malaise d'avoir survécu alors que les leurs sont morts. On n'a pas forcément envie d'en parler. Et puis, c'est le silence des vaincus de l'histoire. On ne parle pas non plus. Puis ceux qui sont là ne posent pas forcément des questions parce que le malaise de ne peut-être pas avoir réagi ou de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que ça ne se produise pas. Tous ces éléments rentrent en compte. Puis eux-mêmes, après, n'en ont pas parlé. Ils ont voulu l'enfuir pour vivre. Ils n'en ont pas parlé forcément à leur enfant tout de suite. Ça a sauté une génération. On s'est rendu compte, dans la littérature, dans la production de témoignages, qu'il y a un trou dans le... Il y a peu de témoignages dans les années fin des années 40 et des années, au début des années 50, pardon. Les témoignages arrivent plus tard. C'est-à-dire que comme si ceux qui avaient vécu ça ont du mal à en parler tout de suite. Et peut-être aussi ceux qui sont en face ne les questionnent pas. On n'a pas envie de savoir. Allez savoir.
Donc il y a une génération qui se passe pour que les enfants, petits-enfants, commencent eux à poser des questions.
Poser des questions et eux prêts à raconter.
Ouais. Enfants, petits-enfants, on parle ici voilà, de travail sur la mémoire. Hein, vous le disiez, beaucoup de gens ignorent la rafle du Vel'Div. Or, c'est inscrit sur de nombreuses écoles. Aujourd'hui, à qui est-ce que vous adressez ce documentaire? Parce qu'on ne peut pas le mettre devant tous les yeux non plus.
Écoutez, délibérément, nous avons fait sans rien censurer. Entre deux choix d'images, nous n'avons pas montré forcément la plus violente. Ces documentaires ont été faits délibérément pour être projetés dans le plus grand lien social de nos sociétés occidentales, ça veut dire la télévision. La télévision que tout le monde regarde, peu ou prou, en moyenne, je vous le rappelle, 4 heures par jour, que ce soit en Belgique, en France, en Allemagne, en Pologne, pour ne citer que ces pays-là. France Télévisions en France, RTBF en Belgique, ont décidé de le passer en prime time, ça veut dire le montrer au plus grand nombre. Ce n'est pas des choix de marketing, c'est des choix délibérés de politiques, citoyens. Même si le terme citoyen est assez galvaudé, je crois que c'est le terme que je déteste le plus depuis quelques temps. Il ne veut strictement rien dire, mais ça reste entre nous et les gens qui nous écoutent peut-être. Mais en tout cas, c'est l'idée de, oui, faut dire, faut montrer. Faut pas avoir peur de s'excuser de montrer. Il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit de raconter. Ça peut gêner, ça peut déranger. Quelquefois, c'est nécessaire.
Ouais, vous vouliez démontrer à travers ces 8 documentaires comment ce génocide avait été possible. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui du résultat? Est-ce que l'objectif a été atteint? Parce que nous n'avons pas vu encore tous les documentaires.
Pardonnez-moi, mais comme il y a un dicton qui dit « je ne prends pas d'aspirine parce que ça pourrait me faire du bien », j'ai par principe, je ne suis jamais assez content. Mais oui, je tiens à dire quand même que le travail de William Carrel et de Blanche Finger à la réalisation de toutes leurs équipes, de tous les gens qui ont travaillé autour d'eux, tous, au montage, à la documentation, à la recherche, au tournage, à tous ces historiens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont tous joué le jeu au sens noble du terme, oui, je suis content. J'aurais été encore plus content si je n'avais pas eu besoin de faire ce film.
Aujourd'hui, la Gestapo a fait savoir que demain, à 11h, on pendra des Juifs. On ne sait qui sont ces Juifs, ni pour quelles raisons ils seront pendus. Ce jour-ci ne sera jamais oublié et restera gravé longtemps, longtemps dans notre mémoire. Pendant qu'on les menait au gibet, les malheureux ont levé les yeux au ciel et ont murmuré quelque chose. Le bourreau a empoigné les victimes et leur a passé la corde autour de leur cou. Pendant un moment, ils se sont débattus, agitant les pieds, et ensuite plus rien. Après l'exécution, les assassins ont sorti de leur poche des flacons de liqueur et se sont serrés les mains en criant à voix haute « Morgen weiter !» On continue demain. Les victimes sont restées pendues jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Ensuite, on les a dépendues et transférées au cimetière.
Extrait du documentaire « Jusqu'au dernier, la destruction des Juifs d'Europe » de William Carrel et Blanche Finger, Caroline.
Oui, il aura un documentaire en 8 parties dont les 3 premières vous sont proposées demain soir sur la Une dans Retour aux sources, présenté par Élodie de Sélis. Ce documentaire a été produit par Céline Nuss et Paul Rosenberg et c'est lui qui était notre invité aujourd'hui.
Merci Caroline, un de ces jours.
Un de ces jours.